Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17h, c'est l'heure du live bien sûr. Et cette semaine, comme vous pouvez le voir, c'est le Pirate Talk, bien sûr. C'est le petit moment où nous allons prendre la mer, le vent, tout ça, et on va papoter un peu de tout ce qui a fait, je sais pas, la semaine d'actualité et vos vies respectives dans le monde merveilleux de la cybersécurité. Donc, pour cela, bien sûr, je ne serai pas tout seul puisque, comme vous pouvez le voir déjà sur l'écran, mais on va le voir dans le, enfin, on va l'entendre bientôt, je suis accompagné au moins de Kissa et peut-être même d'Asborg, je crois, mais il est en train de patcher le jeu. Ça ne devrait pas tarder. Donc, déjà, je vais aller sur le Discord, je vais activer le son. Ah ben voilà, Asborg. Et donc j'active le son et normalement. Bonjour le chat. Impeccable. Et vous l'entendez aussi. Alors je vais quand même tout de suite dire bonjour à la totalité du chat. C'est important. Donc bonjour Asborg, bonjour Pandolac, bonjour Cabot, bonjour Gaziel, bonjour Chris, bonjour Iti, et bonjour Eregi, et bonjour Optinet. Voilà. Ça a été plus rapide que d'habitude. C'est très bien. Ça m'évite de casser les oreilles à tout le monde. Et on a à peine commencé que je vois qu'on a déjà plein de cadeaux. Qu'est-ce que c'est que ça? On a récolté des trucs.
Quel truc?
Bah là, une barque.
Oui, bah oui, pas jouer une chaloute, je la prends. Hein.
Et bonjour Zogby Kemowski aussi. Alors pour ceux qui ne savent pas encore qu'est-ce que c'est que ce genre de live, qu'est-ce qu'on y fait de beau, eh bien, on va discuter hacking, éthique, politique, sécurité informatique, plein de choses en hic, et des choses en ing du coup. Et donc, eh bien ma foi, vous pouvez déjà envoyer vos questions. L'idée c'est que vraiment c'est ouvert. Tout ce que vous avez envie de demander, vous le demandez. Je répondrai dans la mesure de mes moyens et je ferai appel à l'intelligence collective pour le reste, tout simplement.
Croque solo, c'est droit devant.
Et on va à Croque solo?
Les livraisons sont à Croque solo, donc on y aller direct et puis on va après.
D'accord. Le but de ce jeu, alors le but de ce jeu ici, nous sommes à Sea of Seas. Sea of Seas, le but c'est de tout simplement trouver des trésors.
Tuer les gens.
Trouver des trésors, tuer les gens et tuer des gens. Tuer des squelettes surtout, nous.
Surtout désinguer les gens.
Et vendre ton or, voilà, gagner de l'or, toujours plus d'or. Tout simplement.
Bon, le bateau, c'est pas trop moche.
Est-ce que tout le monde est dans le bateau, déjà?
Non, mais allez-y, hein. Ça charge, donc je vous rejoins dès que je peux.
Attends, t'as un petit écho, peut-être que je t'ai mis dans le jeu aussi, bouge pas.
Écho,
couper le chat, voilà. Tu n'as pas le droit de parler dans le jeu. Tout va bien.
Ouais.
Du coup, bah donc le chat, n'hésitez pas, posez vos questions, et y compris d'ailleurs dans le Discord si vous avez des questions. Et puis si vous avez aucune question, moi j'ai quelques sujets que je me suis préparé en avance, dont on pourra discutailler aussi. Du coup, je lève l'encre. Hein.
Ah.
Non.
J'arrive. Non, mais c'est que j'étais en train de refaire un tour dans les tonneaux, donc j'arrive, parce que tout seul, ça va être chiant sinon.
Oh, ce n'est qu'un brigantin.
Ok, je te regarde faire.
Tu me dis c'est tout droit, je vais tout droit.
Ouais, c'est au sud.
Vous êtes bien sage dans le chat. Bonjour Gamesquick. Vous n'avez aucune question aujourd'hui. Pourtant, Dieu sait qu'il s'est passé des choses cette semaine. Moi, personnellement, j'ai reçu beaucoup de questions sur Instagram, par exemple. Il y a des gens qui ont découvert mon existence sur Instagram. Et du coup...
Ah putain, déjà.
On se fait attaquer. Oh, bon.
Putain, déjà.
Ça va nous occuper. Je vais chercher des boulets. Ouais, en fait, moi, toute la semaine, j'ai été bombardé de questions. Donc, je suis surpris que là, plus personne n'ait rien à me poser comme question. Alors que...
Bon, je gère la barre. Hop, ça va, c'est un petit stream de tout.
Allez, je suis au canon. Pourquoi une personne actuellement présente dans le stream n'est pas en train de s'entraîner à conduire un bus? Alors ça, c'est une très bonne question. Mais qui n'est pas une question
réelle. J'ai déjà mon permis, Kessos.
Permis bus.
Je crois qu'il coule. Relève.
Il est en train de couler. Qu'enseignerais-tu en priorité à des BTS en informatique, cybersécurité ? Alors, la première chose, je pense, c'est quand même d'apprendre un peu le fonctionnement d'un ordinateur. Alors, je sais pas où c'est que tu démarres en BTS informatique. Mais, enfin, pour moi, faut quand même avoir un peu vu, voilà, comment ça fonctionne un ordinateur, les différentes parties, quoi, connaître l'appareil. Après, connaître les OS. Donc, c'est, je sais pas si ça s'enseigne véritablement, enfin. Avoir connaissance. Après, la programmation, mais pas forcément au sens devenir développeur, être à fond dans tel ou tel langage, mais plus comprendre l'algorithmique, le genre de petites choses là, quoi. Comprendre ce qu'est un programme informatique, comment ça fonctionne, etc.
Ok, je vois.
Éventuellement avec du scripting ou des choses comme ça. Et une fois qu'on a ça, on peut commencer à attaquer la cyber d'un point de vue théorique, tout ce qui est security by design. Et puis après, le problème, en fait, c'est que la partie hacker, j'ai toujours eu du mal à réfléchir à comment ça pouvait être s'enseigner. Parce que pour moi, c'est vraiment un état d'esprit, quoi. C'est plus avoir la volonté de chercher la petite bête à droite à gauche plus que une technique à maîtriser particulièrement, tu vois. Donc après, pour aller purement dans la cybersécurité, ouais, apprendre les audits, apprendre à faire du pentest, mais ça vient bien après, quoi. Perso, j'ai rien suivi de ce qui s'est passé cette semaine, donc je suis au courant de rien. Eh ben écoute, on va apprendre des choses ensemble. Je vais mettre un peu de voile, non ? J'ai l'impression qu'on est un peu loin.
On est un peu loin, mais j'arrivais à gérer depuis tout à l'heure, donc je me suis dit potentiellement je peux le faire.
Je vais nous approcher un peu.
Et franchement.
Mais bon, regarde, la base pour faire de la cybersécurité et pour être un hacker, hein, enfin, quel que soit le côté où vous mettez, c'est de comprendre ce qui se passe. Donc de toute façon, il faut au moins avoir une compréhension de l'objet avant de pouvoir le bricoler et de le hacker, quoi, tout simplement. Donc, comment tu fais pour te tenir à jour des actus? Déjà, j'ai un flux Twitter. Alors, je suis très présent. Je suis très présent sur Twitter. Ça, c'est une première chose. Donc, je suis beaucoup de monde qui... plutôt des Anglais, d'ailleurs. Enfin, des anglophones qui suivent pas mal l'actualité. Donc, en général, je suis plutôt en retard sur les actus françaises. Je suis un peu plus au courant des actus internationales, on va dire. Et donc, bah, voilà, je suis énormément via Twitter. Après, hors de Twitter, il y a 2-3 sites sympas. Alors, il y a un site que j'aime bien, mais qui est pas... que son nom... il est mal nommé, en fait. C'est Hacker News. Hacker News, c'est un site qui référence un petit peu tout... plein de liens, en fait, où les gens votent, hein, pour savoir les liens les plus intéressants que d'autres. Et donc ça a une connotation assez technologique, c'est très Silicon Valley, tout ça. Donc il y a pas mal de sécurité informatique, mais il n'y a pas que ça. Il y a de l'innovation générale, la techno en général. C'est un bon truc aussi. Des fois il y a des trucs qui n'ont rien à voir, mais qui sont juste fun. Mais c'est un bon site que j'aime. Enfin moi j'aime bien consulter pour avoir des infos.
Il y a de la techno.
Oui, il y a aussi de la techno aussi. Journal du geek, un peu moins.
Ah, l'autre droit devant, fuck.
Ah ouais, mais là. Merci pour le follow, Yukimoki. Oui, donc je disais Journal du geek, oui, mais enfin moi je le regarde moins. Enfin, bêtement, parce que en fait je suis pas sur le même temps, en fait, c'est un peu con à dire comme ça, mais.
Lol. On va sur un faucheur.
Ah, j'avais pas vu. Du coup, en fait, le journal du geek, il a tendance à donner des infos que j'ai déjà vues ailleurs sur Twitter avant, en fait. Donc, j'ai un décalage comme ça temporel qui fait qu'en général, je suis déjà au courant de ce qui est marqué dans le journal du geek. Puis bon, c'est pas tout à fait les mêmes sources. Donc, des fois, il y a des choses intéressantes quand même. Mais voilà, je suis déjà au courant parce que j'ai déjà lu via Twitter en général avant. Donc, Comme je sais déjà lire l'anglais, j'ai pas besoin d'avoir la traduction française, quoi, donc ça m'intéresse moins.
Le faucheur est un brigantin.
Donc il y a un PK devant, c'est ça que t'es en train de nous dire?
Je suis en train de... Je crois que c'est un brigantin.
Là on va où, pour solo?
C'est un brigantin. Il va sur le coffre de la mort, je crois.
Ok. C'est quoi ton métier dans la cyber? Alors je suis consultant en cybersécurité. Je suis l'homme à tout faire. Voilà. En cybersécurité, je suis indépendant, donc je fais un peu ce que je veux tout seul. Mais je fais un peu de tout. Je fais de l'audit, je fais de la formation, je fais du pentest. Le métier, c'est consultant. Dans les besoins.
Faudrait éteindre les loupiottes au cas où.
Alors, Gire du 69 a posé une question avant, je l'ai pas vue. Où est ta question? Tu as posé... Où s'orienter pour du pentest mobile? Ah, pour du pentest mobile. Une bonne question. Je sais pas. C'est très spécifique comme truc. Bah, professionnellement, déjà, on fait pas la différence, donc c'est pentest en général. Mais après, pour apprendre à faire du pentest mobile... j'ai pas de ressources particulières. Est-ce que quelqu'un dans le chat ou dans le vocal a une ressource pour le pentest spécifiquement mobile?
Non.
Non. Non, là, honnêtement, je vois pas. Il y a des tas de ressources pour faire du pentest, enfin, pour apprendre en général. Hein, genre, ça va être des caches de flag typiquement, mais des caches de flag typiquement système mobile, il y en a, hein, mais enfin, c'est pas. Y a pas des sites exclusivement consacrés à ça, quoi. As-tu déjà fait des catch the flag sur des machines macOS? Est-ce que j'ai déjà fait du macOS? Pas dans mes souvenirs, je crois pas. On en a fait pas mal maintenant sur la chaîne, mais je crois pas qu'on ait fait de macOS encore. Après, macOS, ça reste du Linux en dessous. Hein. C'est pas très très différent d'une machine Unix, mais spécifiquement je crois pas en avoir fait
remonter ouais, les voies.
C'est un peu comme
les machines l'encre.
C'est un peu comme les machines Windows, il y a aussi un problème de licence du coup, donc c'est pas évident d'avoir des VM macOS attaqués, quoi. C'est pas si simple, quoi. L'encre, mais on est un peu loin du coup.
Non, mais je vais y aller en chaloute.
Je relève l'encre du coup.
Ouais, relève l'encre à cause du PK.
Désolé, je fais le useless au possible, mais mon PC n'en peut pas.
Y a pas de souci. Après, Chris qui nous dit il y a une app pour. Mais je trouve plus le nom. Une app sur mobile pour faire du pentest. Bah, t'as une édition de Kali spécifique mobile, dont le nom effectivement m'échappe du coup. Je l'ai, mais elle est sur mon téléphone, mais il y a une NetHunter, voilà, c'est ça. Il y a une édition NetHunter sur mobile, donc qui se compose d'une espèce de Kali command line, un peu comme on trouverait des VSL ou des choses comme ça en conteneur. Et puis il y a quelques applis autour pour essayer d'avoir du RDP, pour avoir une interface graphique. Et puis il y a aussi une boutique spécifique. Je sais pas si vous connaissez F-Droid, qui est une espèce de store alternatif. Et ben il y a un F-Droid spécifiquement NetHunter, en fait. Donc voilà, avec tout ça, il y a un certain nombre d'outils effectivement dédiés mobile, quoi. Ah, pour reverse engineer des APK, oui, non, là. Après, c'est pareil, j'en ai fait ça, je crois, des reverse engineering d'APK. Je sais plus. Est-ce qu'on en a fait en live? Je sais plus du tout. J'ai pas une bonne mémoire. APK Tool, sûrement. Sûrement, le nom me dit quelque chose. Ça doit être ça. Pendant que nous gagnons de l'or à rien faire, c'est beau.
J'ai l'impression d'être au boulot.
Niquez-vous.
Heureusement que le capitaine est là. Merci, capitaine.
Ah bah, faites gaffe à ce qu'il y a autour.
Alors, je vais aller regarder la map, tiens. Ouais. Bon, il est à Krakenfall et il continue. Bon, il est juste à Krakenfall, je sais pas ce qu'il fait.
Moi, ça me bat. On a une quête.
Tu as fait une machine Android qu'on avait terminée, oui. Oui, c'est vrai que j'avais... Et du coup, on avait édité des APK, tout à fait.
J'arrive.
Alors, ça, c'est une quête qui va pas du tout à Krakenfall, c'est très bien.
Je sais pas ce que c'est la quête, par contre, je préviens.
C'est des coffres trésors.
Super.
Creusés, mais par contre, sur l'île chiante de Allfaithful.
Oh non.
Qui nous fait passer pas loin du PK, mais
bon. Ouais, bah alors non.
Sinon, on peut mettre une autre quête, hein. Je sais plus ce que j'ai dans mon inventaire.
Je pense qu'on va mettre une autre quête, ouais.
Tu veux une quoi? Une quête de cargaison? Une quête de...
Je m'en fous.
Cargaison perdue des marchands, là? Ou ça te plaît pas?
J'ai peur qu'on aille à côté du PK, à ce moment-là.
Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai un Volt. Et puis, bah, c'est
ah, bah
toi,
tiens, attends, j'ai, une... j'ai ça, en fait. Ça peut être sympa.
Je te laisse... Voilà. Hop. On avait gagné le jeu. On avait gagné le jeu. Ah, peut-être.
Eh ben, j'ai perdu, moi.
Et du coup?
Comme d'enfoiré. C'est pas bien de me faire penser au jeu comme ça.
Comment tu sais si un serveur web est sous Linux ou Windows? Ah bah c'est écrit dessus en fait en général. Souvent quand on identifie le serveur web, bon ça peut être du Apache, ça peut être du 2IS. Si c'est du 2IS, on sait tout de suite que c'est un Windows parce que ça n'existe que sous Windows. Mais quand c'est Apache ou quand c'est un autre modèle, en fait c'est souvent écrit l'OS du serveur. Hein. Alors, en général quand on fait nos... T'as pas déjà regardé les lives, les replays, différents lives qu'on fait de Catch the Flag. Le nom de l'OS, c'est une information qu'on a très très vite. En général, avant d'avoir le reste, en fait. C'est le nom de l'OS, c'est très très facile à avoir avec un scanet map. C'est assez simple, en fait, comme information à trouver. Donc, c'est pas très dur. Ah.
Oh putain, mais c'est pas possible!
Bagarre. Hein. Baisser les voiles un peu.
Les voiles. Ouais. Ah mais on a que ça
Bah écoute, on va pas se plaindre, hein, ça nous fait des trésors. Il plante ses Windows, exactement.
Tout au canon.
Allez, Asborg.
Ouais, mais...
Asborg, il plante.
J'y arrive toujours pas, je suis désolé. Je suis en train de fermer tout ce que je peux sur mon PC et ça rame.
Je ne veux pas de toi.
J'attends mon nouveau PC avec impatience, mais ça traîne.
Ah, désolé.
Trois droites, je suis...
Il manœuvre parce que j'avais le... C'est bon, ça. Tiens, faut que je me... passe au buff que c'est, ce truc. Ah, puis il a envie de me faire chier, là.
Oui, il tourne sur place, c'est un peu chiant. Oui. Mais bon, il va bientôt couler.
Ok. Ah bah, il coule. Ah non.
La bagarre.
Mais qu'est-ce qu'il fout?
Je sais pas, il zigzag. Il est en mode... Ah, il est trop
bon.
Bas, là. Je peux pas le...
Je crois
peux
que
pas
c'est
le tirer
bon.
Dessus.
Ah non. Il est fort, c'est pareil.
J'ai plus de bouée. J'espère qu'il coule.
Oh, il coule. Ça monte la voile.
Alors, voile.
C'est impossible.
Je suis seul pour qui TH Tryakmi plante à certains moments aujourd'hui. Bah, je vais pas tester aujourd'hui. Et alors, il y a Pendant là qui te dit, Asborg, qu'il confirme qu'il y a une pénurie mondiale sur le matériel informatique. Boom du télétravail. Alors non, par contre, Pendant là que je ne suis pas d'accord. C'est pas le boom du télétravail. En tout cas, ça en fait partie, certes. Mais c'est surtout un problème de Bitcoin. Ça dépend de quel matériel, tu me diras. Quel matériel informatique. Mais il y a eu une énorme razzia de tout ce qui est carte graphique et tout ce qui est disque dur SSD lié à une montée des crypto-monnaies, quoi. Et alors bon, c'est vrai qu'effectivement, par contre, pour les ordi portables, non.
Actuellement, tu veux une 3080 Nvidia, tu t'en trouves pas. Parce que c'est la meilleure performance et rentabilité pour crypto, pour...
Mais aussi les disques durs. Les disques durs SSD sont en train de partir avec aussi. Je sais pas trop pourquoi, mais...
C'est bien,
parce que ça va plus vite.
Ah oui, mais il faut de la crypto-monnaie. C'est pas très très utile, mais... Tu stockes pas tant d'informations que ça, quoi.
Ah, une caisse de stockage, oui.
Mais après, effectivement, oui, peut-être que tout ce qui est ordinateur portable, etc., à cause du Covid, c'est vraiment... Le harpon fait de ses mouvements étranges...
Ouais, c'est qui part en cacahuète. C'est pour ça que je le lâche comme ça, parce que j'arrive plus à regarder. Mon jeu est fluide pendant une minute toutes les cinq minutes, en fait. Je sais pas pourquoi.
Ah, c'est technique.
T'as baissé les... Est-ce que t'as baissé tous les effets de particules et tout ça?
Ah, je suis en maudit partout.
Tu es maudit partout?
Je suis maudit de maudit.
Il y a un autre truc qu'il faut prendre en compte. Putain, c'est où qu'on avait vu?
J'ai mis les ultimate performance de power. J'ai killé tout.
Définition de la résolution, t'es à combien?
Ah ouais, là, peut-être, effectivement. Il doit être en 4K. Je peux chercher, là.
Ah bah oui, là, tu peux baisser.
En fait, au-delà, en fait, dans les paramètres vidéo, t'as un truc qui s'appelle définition de la résolution. Ça joue sur tous les effets de brume, particules et tout ça. Et si tu le mets plus bas, ça a tendance à bien accélérer le jeu.
Alors, mince, c'est pas un CTF, c'est semaine prochaine. Alors oui, probablement que la semaine prochaine sera un CTF. Vu que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, il est probable qu'on en fasse un la semaine prochaine. Et d'ailleurs, alors, du coup, semaine prochaine, il vous reste encore quelques jours pour participer au tirage au sort pour gagner le jeu de cartes là qu'on avait testé la semaine dernière. Donc, le tirage au sort sera mardi 27, si je ne m'abuse, oui, ça sera le 27. Et donc, du coup, bah, vous avez encore le temps de participer, hein, vous avez jusqu'à mardi pour pas de tirage au sort. J'en ai qu'un seul à faire gagner, mais c'est toujours ça de prix pour ceux que ça intéresse. Sachant que vous êtes en concurrence avec des bots, hein, je vous le dis tout de suite. Je me suis fait spam follow plutôt, avec des tas de comptes qui manifestement sont des robots. Alors la voile.
L'autre. Celle de devant.
Donc c'est encore possible, mais il va falloir être présent.
Mais du coup, tu les retires les bots sur,
bah, ce qu'il y a,
sur
c'est...
le tirage?
Théoriquement,
en fait, pour gagner.
C'est pas évident de savoir si c'est des légitimes ou pas, en fait. Parce que il y en a, ils sont, oui, manifestement des bots. Mais j'ai une centaine de participations et il y en a quatre que j'ai bien visé, que c'était bien des bots, quoi, tu vois. Mm-hmm. Après, des gens qui créent des multicomptes pour participer au jeu, ça, je vais pas les empêcher, quoi.
Oui, ça, tu peux pas gérer.
Donc, je peux pas tellement décider si c'est vraiment un bot ou pas. Donc, j'ai pas vraiment de protection, de détection ou quoi que ce soit. C'est juste, il y en a un qui m'a follow les quatre le même jour et avec le même message. Alors, je ne demandais rien. Je ne demandais pas de faire de message. C'est
trop bien. Et donc, si vous voulez augmenter vos chances, ne faites pas de bots. Allez sur les Tipeee.
Oui, on peut. Vous avez trois chances de participer. Soit en follow RT sur Twitter, donc le tweet en question, hein, qui parle du jeu de cartes. Soit le faire sur Mastodon, parce que tout ce que j'écris sur Twitter est aussi sur Mastodon, donc j'ai une chance aussi sur Mastodon. Ou alors, donc vous participez au Tipeee, vous contribuez au Tipeee, quelle que soit la somme, vous êtes automatiquement dans la listée dans ceux qui sont tirés au sort possible. Hop là. Alors, qu'est-ce que je lis là? Tu as déjà tenté de hacker une machine sous panel? Type CentOS web panel. Est-ce qu'il y en a déjà eu ça, des panels? Il faut savoir que je ne hack que des machines pour lesquelles j'ai le droit. Et donc c'est essentiellement des Hack the Box ou des Try Hack Me. Mais je crois que panel, j'ai déjà fait une sur Hack the Box. Il me semble qu'il y en avait une. Ça me dit quelque chose. Panel, je crois, ou alors peut-être c'était pas celle-là, mais il me semble
pas. Il y a un coffre dans les galeries.
Et après, en termes de pentest pro, non, j'ai jamais fait de panel. C'est pas genre, là qui est sur lequel je travaille.
Alors, il y a un coffre dans les galeries.
Ouais, je vais chercher.
Il y a un truc là sur la plage.
Ah merde, j'ai pas mis à jour. Excusez-moi, j'ai pas mis à jour la commande Discord. Et du coup, le lien Discord ne marche pas. Attendez, j'ai fini de me battre. Et je vais réparer ça.
Boum. Qu'est-ce que vous...
Je suis mort, ça tombe bien. Je vais en profiter pour changer ça. Alors, Discord. Parce que du coup, sinon, vous allez vous plaindre que vous pouvez pas rejoindre mon Discord. Et ça...
Oui, vu qu'il y en a qui attendent...
Que ça...
Ouais, Discord.
Donc, je vais tout de suite vous le mettre.
Hop, du coup, j'en profite. D'ailleurs, si vous arrivez sur le Discord, allez voir le règlement, parce que sinon je tape.
Tu tapes même si juste parce qu'on n'a pas lu le règlement?
Exactement.
Oh là là, c'est terrible. Cette violence.
Laissez-moi utiliser mon gros marteau.
Là, donc, je mets tout à jour. Hop. Voilà. Donc maintenant, si vous tapez la commande, vous avez le bon lien vers le Discord. Pas de soucis. Hop, là, je me remets tout bien. Voilà, c'est parti. On y va. Quelqu'un qui est là sur le bateau. Il y a quelqu'un qui est là. Alors sinon, vu que je vous sens pas très très au fait de l'actu, je vais vous en sortir une, moi, une actu qui met en lumière une question d'éthique, justement, très intéressante. Vous ne savez peut-être pas, cette semaine est sortie une histoire relative à l'université du Minnesota, qui a tenté manifestement, alors ça date d'avant j'imagine, de faire une recherche, un papier sur la capacité, enfin sur une recherche sur est-ce qu'il est possible de pourrir, enfin d'introduire des failles de sécurité dans des projets open source. Voilà, c'était le titre du papier, c'était un truc comme ça. C'était est-il possible de d'intégrer des failles de sécurité directement en contribuant au code source, vous voyez, d'un projet open source. Et donc pour ce faire, pour essayer de mettre, j'imagine, en pratique ou pour donner un exemple de leurs travaux, ils ont tenté, alors peut-être réussi d'ailleurs, à plusieurs reprises, d'intégrer au kernel Linux des patchs qui soit ne faisaient rien, soit introduisaient des bugs. Donc du coup, plutôt négatif. Et du coup. Le problème, quand ils ont fait leur recherche, c'est que ils ont prévenu personne. Ils ont fait leur recherche dans leur coin. Ils ont fait donc ces différents patchs. A priori, il y en a quelques-uns qui sont passés quand même. Et du coup, la communauté de développeurs Linux, quand ils s'en sont aperçus, ils ont dit c'est de la merde en fait ce que vous faites là. Ils leur ont demandé d'arrêter déjà, d'arrêter de introduire dans le kernel des patchs qui ne sont pas corrects. Et l'équipe de recherche là du Minnesota n'ayant pas arrêté, ils sont fait bannir les chefs de projet. Alors je sais pas exactement le grade qu'il avait, mais enfin le gars qui s'occupe du noyau Linux a dit puisque c'est comme ça, tout l'université du Minnesota est maintenant banni de faire des patchs sur le noyau Linux. Et non seulement il est entièrement banni, mais en plus ils sont en train d'étudier au cas par cas les anciens patchs, parce que évidemment il n'y avait pas que cette équipe de chercheurs là qui avait déjà fait des patchs, il y avait d'autres contributeurs qui dataient d'avant, et donc ils sont en train de passer en revue tous les patchs précédents, et avec la ferme attention, au départ je sais pas s'il va l'appliquer, mais au départ la décision c'était tous les anciens patchs vont être annulés, quoi, y compris parce que dans le doute ils peuvent pas savoir s'ils sont légitimes ou pas, donc ils annulent tout, quoi. Donc voilà une question intéressante, parce que évidemment la problématique dans tout ça, c'est qu'à aucun moment donné, les chercheurs n'ont prévenu qui que ce soit dans les équipes de développeurs du noyau Linux. Se pose donc la question, est-ce que pour tester la sécurité de quelque chose, on doit le faire sans prévenir personne? Et ça, c'est une question éthique intéressante. Ça montre déjà la réactivité de la communauté. Oui, clairement, dès qu'ils ont détecté ça, ils ont fait de la merde. Enfin, ils ont gueulé tout de suite, quoi. Alors déjà, je me tourne peut-être plus vers toi, Kissa, en termes de méthodologie universitaire. Est-ce que ça passe?
Non, moi, je me rappelle que... J'ai envie de te dire, la psy s'est bien fait bâcher pour avoir fait ce genre d'expérimentation sans avoir prévenu les sujets expérimentés.
Qui ça? La psy? Ah oui, le domaine du psy.
Oui. Oui.
Donc, parce que justement, déjà, est-ce que tu as le droit de faire des papiers de recherche sans prévenir... Alors,
non.
Prévenir la victime, entre guillemets, mais enfin au moins prévenir le supérieur, quoi.
Tu te fais aligner... Enfin, le supérieur... la victime, non, de toute manière, t'as pas de... comment te dire? Dans mon domaine, c'est peut-être plus différent parce que quand on fait une recherche, soit t'as un directeur de recherche qui est là et qui te chapote, soit tu es toi-même.
Chapoté.
Tu fais toi-même ton truc, donc t'as personne au-dessus, quoi. Mais par contre, si tu fais un truc sans prévenir ton sujet, laisse tomber, tu te fais aligner et personne ne veut publier ton article.
En fait, le problème qui se pose, qui est peut-être moins simple à résoudre, c'est que dans le domaine de la cybersécurité, on a ce qu'on appelle les red teams. Et les red teams, justement, elles flirtent un peu avec ça, avec le fait d'attaquer sans trop prévenir, parce que le but, c'est justement de prendre les équipes, enfin les collaborateurs un peu par surprise, et les tester, justement. Mais
tu as un commanditaire quand même.
Voilà, normalement, dans les red teams, tu as un commanditaire et tu dois prévenir les gens. Quoi.
La voile, s'il vous plaît.
Après, au moins avertir le général, grand chef.
Non. Pour monter. Ah.
Plus bas ou plus haut? Ah non, l'autre voile.
Ah, il y a un canon sur la plage. Je vais aller le désinguer.
Ah, au secours, je suis bloqué de nouveau.
Je vais aller désinguer le squelette au canon.
Ça me fait un peu en penser ce que j'ai entendu à propos du FBI qui a été patché des serveurs Exchange.
Oui, il y a eu ça aussi. Alors ça, c'est...
J'ai bien compris, couvert d'un jugement, quoi, d'un espèce de mandat.
Là, c'est perçu comme positif, on va dire. Donc, le problème se pose peut-être moins d'un point de vue éthique.
Mais ils ils ont peut-être été en déposer une autre.
Et c'est vrai que dans l'absolu, ils ont quand même accédé aux machines qui n'étaient pas eux, quoi. Sans forcément demander trop la permission.
Ah, sans demander du tout.
Pendant là, il nous dit, ça revient à hacker une machine sans avoir la permission. Oui, c'est ça. C'est clairement ce qu'ils ont fait. Enfin, là, ils n'ont pas accédé à une machine. Ils avaient la permission de contribuer du code, hein, en l'occurrence, pour le kernel Linux. Mais ils ont contribué de la merde. Voilà, c'est un peu l'idée. En France, aujourd'hui, il y a trop de conseils éthiques pour pouvoir faire des recherches pas très éthiques, justement. Trop, je ne sais pas. Il y en a.
Ça dépend aussi de quel domaine. Je veux dire, si tu faisais pas un minimum d'éthique en sciences humaines, par exemple, c'est juste énorme ce que tu peux faire avec les gens, quoi. Donc, il y a quand même besoin d'un minimum d'éthique.
Voilà, moi qui passe mon temps à vous parler d'éthique sans arrêt, il y a quand même un point important, c'est est-ce que c'est bénéfique, est-ce que c'est maléfique, quoi. Que tu demandes pas la permission à quelqu'un pour faire quelque chose pour son bien, déjà c'est moyen, mais bon, allez, on va dire c'est de bonne foi. Par contre, que tu demandes pas la permission et qu'en plus tu fasses un truc que tu sais être négatif, là c'est double peine, quoi. C'est vraiment éthiquement parlant, c'est de la merde. En tout cas, c'est mon point de vue, encore une fois. Mais voilà, je trouvais que c'était un sujet intéressant à remonter parce que je te dis, enfin voilà, pour le coup, enfin je vous dis, allez, je tutoie le chat, c'est beau. Je vous dis, en fait, moi, c'est la partie Red Team, en fait, qui m'a toujours un petit peu chagriné, parce que je suis des gens qui font de la Red Team, hein, et souvent, en fait, l'idée, c'est on fait exprès de prendre les gens par surprise, les collaborateurs par surprise, parce que, c'est comme ça qu'on teste vraiment s'ils savent faire. Et ça, j'ai toujours trouvé ça comme méthodologie un peu merdique, en fait, parce que c'est pas forcément plus efficace, en tout cas, de mon point de vue. Pour moi, c'est tout aussi efficace d'apprendre aux gens et de leur faire répéter en sachant très bien, en fait. C'est-à-dire que si tu leur dis, il faut pas, tu leur expliques comment il faut réagir, par exemple, à un coup de fil, en demandant, les informations pertinentes pour prouver que le gars au bout du fil, c'est bien l'administrateur système, tu peux très bien le faire en les formant et pas forcément en les prenant au piège d'une attaque Red Team. Tu vois, il n'y a pas besoin de les prendre, de te poser en ennemi, en fait. Il n'y a pas besoin de les menacer, il n'y a pas besoin de les prendre par surprise.
Il y a Brigantin qui arrive sur Old Faithful. Ah non, il est en train de... What?
Quelle est l'utilité publique ou scientifique d'une telle recherche? Quelle est la thèse défendue ou démontrée? Alors, je pense que la thèse était qu'il ne faut pas se méfier uniquement des failles de sécurité... De devs qui font pas exprès, il faut aussi se méfier des failles de sécurité introduites par des éléments ennemis qui se sont infiltrés, en fait. L'idée, c'est ça. Mais on a déjà eu des cas comme ça où, effectivement, il y a des serveurs, notamment PHP, il y a pas longtemps, mais c'est déjà arrivé, notamment sur, je crois, c'est VSFTP aussi qui avait eu le cas, ou ProFTPD, je sais plus lequel, mais... Des hackers qui s'introduisent de manière légitime, c'est-à-dire en se faisant passer pour des devs et qui s'infiltre dans l'équipe de développement et qui contribue en proposant des trucs, c'est déjà arrivé. Alors après, le but de la recherche, c'est ce que démontrer que c'est possible. Bon, on le savait déjà, c'est sûr, c'est pas d'une grande utilité.
Non, je trouve pas le coffre, j'aurais besoin d'aide.
Tu trouves pas le coffre? J'arrive.
Non. Je pense que je suis dans la zone, mais...
On est sur quoi, là? Ah oui, celle-là, ok. Donc, nord...
Et vu qu'il y a des bateaux dans le coin, je voudrais pas qu'on traîne trop longtemps.
Surtout qu'ils font perdre un max de temps à l'équipe de dev. Alors oui, ça, clairement, là, ça... Ça va leur coûter, parce que je pense qu'ils vont pas reverse tous les patchs comme ça à l'aveugle. Ils vont être obligés de les analyser en fait. Donc effectivement, il y a une perte de temps qui est assez phénoménale. Moi, je trouve ça honteux pour une université de faire ça pour un projet qui impacte le monde entier et encore pire laisser passer réellement des patchs en prod. C'est ça où je sais pas trop. En fait, c'est pas clair s'ils ont vraiment réussi ou pas leur coup. Il y a eu au moins des commits, ça c'est sûr. Est-ce qu'ils ont été validés? Je suis pas sûr. C'est pas clair dans l'histoire. Par contre, il y a eu clairement une mauvaise foi dans le sens où quand les devs s'en sont aperçus, ils ont prévenu l'équipe en leur disant arrêtez. Et les chercheurs ont répondu un truc du style non mais on le fait pas exprès, c'est pas de notre faute, c'est un outil automatique qui fait le truc. Enfin voilà, ils ont essayé de tourner autour du pot quoi. Donc en pleine mauvaise foi totale. Oui, j'ai vu. Je monte là sur le lit. Un peu long de monter. Donc bon, clairement là dans ce cas-là, ils s'y sont extrêmement mal pris, puisque au minimum, hein, dans la méthodo, faut au moins prévenir le chef. Quoi. Mais même d'une manière générale, je suis pas le concept de Red Team, moi je trouve pas ça très très intelligent quelque part. Ça oblige tes collaborateurs, en fait tout bêtement, ça oblige tes collaborateurs à considérer le service informatique comme un ennemi. Et ça, c'est con, en fait.
Par des externes, souvent.
Ouais, mais voilà, du coup, faut te méfier de l'informatique. Enfin, des gens qui bossent dans l'informatique, c'est des gens qui vont te faire chier, quoi. C'est pas la bonne...
C'est mal, bien sûr.
Oui, déjà, on n'est pas toujours très aimé dans les entreprises, alors bon... C'est une mentalité un peu étrange.
Est-ce qu'il y a des red teams dans d'autres domaines, du genre dans la finance? Est-ce qu'il y a des gens qui s'amusent à... Je sais pas.
J'avoue que c'est très bizarre comme concept quand même. Je suis là où c'est censé être, mais effectivement, je ne trouve pas le coffre non plus. Il faut aussi savoir gérer l'effet de surprise, levier sur lequel un attaquant, tout domaine confondu, va jouer. Ouais, c'est l'argument que j'entends souvent, effectivement. Mais enfin, il y a tellement de choses à faire avant, quoi. C'est un peu ça le problème, en fait.
J'aime mieux le concept de Purple Team où tu as l'équipe de défense qui travaille avec l'équipe d'attaque et vraiment ils voient ce qu'ils détectent par rapport aux attaques menées.
Oui, ça paraît déjà plus pertinent. Encore une fois, c'est chacun voit midi à sa porte, hein, mais. Dans le monde merveilleux de la sécurité informatique, je suis pas très fan de concept. L'entreprise, si elle est sérieuse, elle a un vulnerability management, oui. En fait, moi, ce qui m'embête avec la Red Team, c'est que souvent, on l'amène en remplacement d'un programme de formation. Et ça, c'est con, en fait.
Ça devrait être complémentaire, en fait. Ça devrait être la dernière option, en fait. Quand tu as fait tout le reste, tu peux envoyer ta Red Team pour tester si tout ton programme tient la route, quoi.
Exactement. En fait, il faudrait que le test de Red Team soit totalement planifié, finalement. Hein. Pas surprise.
Alors, mais non, putain.
Pas surprise, peut-être un peu quand même, mais dans le sens où c'est en bout de chaîne. C'est-à-dire pendant un an, on forme, et à la fin... On vous prévient qu'il y aura un mois de Red Team, quoi, vous voyez. Il y aura une fenêtre d'ouverture où pendant un mois, peut-être, il y aura une Red Team qui attaque, quoi. Bon, en tout cas, c'est mon point de vue. Après, tout le monde n'est pas obligé d'avoir le même. Service informatique comme un ennemi, on fait quoi en 2021 sans informatique? Sérieusement, raisonnement débile. C'est ça, en fait. Le problème de la Red Team, c'est que elle t'apprend, alors si c'est organisé par les internes, hein, mais elle t'apprend que quand t'as un coup de fil... d'un mec que tu connais, enfin d'un mec de l'interne, tu les connais les internes. Quand t'as un coup de fil de l'interne, il faut te méfier parce que ça se trouve il va te demander un truc qu'il faut pas que tu lui répondes. Là, il va te piéger comme un con en te disant ah bah là, j'ai besoin de ton mot de passe. Et tu dois lui répondre parce que t'as appris. Non, je donne pas mon mot de passe. Voilà. Mais ok, que tu lui répondes ça parce que t'as appris, c'est une chose. Mais que tu répondes ça parce que tu sais qu'il va te piéger et que tu t'en méfies. Là, tout de suite, c'est pas la même mentalité. Et c'est de la merde. Pour moi.
Putain, mais c'est nul.
Alors, un pentest, c'est autre chose. Les pentests, en général, c'est planifié, organisé, etc. Là, quand on parle de Red Team, ça va plus être sur l'humain, quand même, parce qu'effectivement, ils vont pas attaquer la prod. C'est marrant, d'ailleurs, parce que quand ils attaquent la prod, en général, ils préviennent, hein, y a pas de problème. C'est important, ça. Par contre, quand ils peuvent planter les employés en montrant que bah, ils sont pas assez bien sensibilisés à la sécurité... Et donc, pour l'employé lui-même, ça va, même s'ils disent le contraire, ça lui fait pas du bien dans sa carrière, dans sa réputation. Et ben, faut se...
Est-ce que ton PC, il est chaud ou est-ce que...
Alors, mais pas de son, pardon. Oui, j'avais coupé le
son. C'est un Red Team qui t'attaque.
Excusez-moi. J'avais juste parmi le micro. Oui, donc je m'excuse. Hein, ça fait deux lives déjà que ça nous le fait et je n'ai pas identifié pourquoi. Donc, il va falloir que je recreuse. Mais bon, c'est pas grave. Le jeu redémarre. Il fallait pas dire du mal du FBI, exactement. C'est ça le problème. Alors, je remonte un peu vos messages. Toc, 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 toc. Je suis d'accord, formation, prévention, c'est bien plus bénéfique. Bon, après, c'est mon point de vue. Vous avez le droit de le partager ou pas. Il n'y a pas de souci. J'ai une déco du stream. Donc oui, ça crache. Je vois tout le monde qui dit ça crache. On est d'accord. Hop. Et donc, nous revoici, nous voilà. In-game. En quelques instants. Je pense que c'est le PC qui chauffe, mais alors... je sais même pas. Le jeu se met à ramer tout d'un coup, et puis paf. Et comme toi, Asborg, sauf que moi, il dit non, c'est pas possible, et il arrête. La formation, c'est pas trop dans l'air du
en
temps.
En fait, c'est mon PC qui te contamine, quoi.
C'est ça, tu me contamines. La formation, c'est pas trop dans l'air du temps, la répression, oui. Alors là, clairement, E.T., je ne peux que te rejoindre... sur tellement de sujets, malheureusement, mais bon, ça, on va pas refaire le monde, hein. Nous, on s'occupe que de la cybersécurité, hein. Déjà bien du boulot là-dedans. Et ça coûte, bah oui, ça coûte. Et comme les entreprises, elles veulent pas dépenser d'argent, et ben, ça coûte moins. Ça rejoint un peu ce qu'on disait, c'était le live précédent, il me semble qu'on disait ça, le dernier Pirate Talk, où on parlait du fameux Dev SecOps. Le gars aux multiples casquettes qui fait tout et du coup qui est payé moins cher. Ben, c'est un peu la même idée en fait. Pourquoi former quand on peut... Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Voilà. Okay. 2021, on trouve encore des mots de passe sur des post-it collés sur les écrans, vu la semaine dernière. Formation, prévention, bonne pratique, ça peut se faire par des formations en interne, ça coûte que du temps.
Ouais. Même pas, j'ai envie de te dire, sur mon ancien lieu de stage, c'était la même chose. Je travaillais dans un foyer dans protection de l'enfance. On avait un bureau dans lequel donc il y avait tous les PC et tout ça, et sur les tableaux d'affichage, il y avait des post-it avec le nom de compte pour la sécu, le mot de passe, le nom de compte pour la boîte mail, le mot de passe, que ce genre de conneries-là. Et à un moment, je leur ai dit en réunion d'équipe, je leur ai fait, écoutez, on reçoit les jeunes dans le bureau, elles ont accès à tout, elles peuvent venir facilement prendre les informations et faire de la merde sur nos comptes, surtout le compte de tout ce qui est sécu et tout ça, c'est ignoble, quoi. Ben non, ça n'a pas changé. Faut qu'il arrive une couille pour que les gens prennent conscience du souci.
C'est souvent le problème. Moi, typiquement, en tant que... Oui, il était juste à côté de nous. En tant que consultant, moi, clairement, en général, on m'appelle que quand c'est déjà arrivé, en fait, quand l'attaque a déjà eu lieu. C'est beaucoup plus rare, il y en a, hein, mais c'est beaucoup plus rare que les gens s'appellent à des consultants cyber avant de se faire attaquer. Parce que c'est pas pour moi, ça arrive toujours aux autres, etc. C'est malheureusement un grand classique. T'es tombé dans l'eau ? Mais c'est pour ça, souvent on me dit, oui, en 2021, on devrait plus faire ci, on devrait plus faire ça, mais attendez, avant d'attaquer les grands trucs pointus de cybersécurité, vachement pointus... Ah, tiens, Asborg nous a quitté.
Ouais, non, j'essaie de relancer le jeu, parce que c'est juste pas possible. Je ne reviendrai qu'avec un meilleur PC la prochaine fois.
Bah tu vois, même moi, je plante, donc... Et le jeu est gourmand, de toute façon. Après, je stream en même temps.
Bon, je sais pas ce qu'il fait, l'autre.
Non, il s'est arrêté.
Ouais, mais je...
Le fameux adage, mieux vaut prévenir que guérir, trop souvent oublié. Oui, bah, sans, c'est pas avec les exemples qu'on a dans la société actuelle que ça va changer grand-chose. Je rappelle que, bon, encore une fois, c'est mon avis politique, hein, personne n'est obligé d'avoir le même que moi. Mais mon avis politique, c'est quand même qu'on est avec un gouvernement qui fait que du juste à temps. Et donc, le juste à temps, dans la gestion de crise, bah, c'est toujours en retard, en fait. Hein. C'est-à-dire, tu ne fermes les écoles que quand tu peux plus faire autrement. Tu n'ouvres les écoles que quand t'as plus trop, enfin, avant que ce soit utile, etc., etc. Ce qui fait que, au final, t'es toujours en train de gérer une, t'es toujours en train de courir après la montre, en fait. Donc, ils avaient les stocks pas à temps, ils avaient les vaccins pas à temps, ils avaient les masques pas à temps, etc., etc. C'est le juste à temps. Et donc, c'est pas prévenir, là, c'est juste réagir. Quoi.
Et chez nous, on copie chez vous, donc c'est pire.
Si tu veux te marrer, il y a JD et Usul qui ont sorti une vidéo.
Oui, sur BFM, là, j'ai vu.
Ouais, hop, oh, putain, mais c'est tellement bon.
Tu subis les événements, c'est ça. C'est ça. Et le problème, c'est qu'en cybersécurité, mais bon, c'est historique, hein, ça date pas, là, pour le coup, des dernières années, hein, c'est quasiment depuis le début, les entreprises ne voient pas la cybersécurité comme quelque chose qu'il faut prévenir, quoi. C'est vraiment... ils réagissent quand ça arrive. Et déjà qu'ils savent pas de base très bien gérer les crises, d'une manière générale, une entreprise, ça sait pas très bien gérer les crises, c'est pas son fort. Une crise sécurité, en général, il ne sert pas mieux, voire moins bien.
Tiens, elle est où la planche surplombant la lagune?
Hop, oh, tu ne penses pas que ça...
Non. Chaos. Oui. J'ai un problème.
Ah oui, attends.
J'en ai en dessous et en bas. Au-dessus.
T'en as plus au-dessous.
Oh mon dieu.
Tu ne penses pas que ça coûte plus cher de sécuriser par rapport au peu de problèmes possibles? Non. Alors, pourquoi je pense pas? D'une part, parce que les gens ont une vision du prix de la cybersécurité extrêmement erronée. Parce que, voilà, tu quand tu demandes de la cybersécurité, par exemple, à un cabinet parisien à la con, ça va te coûter un bras et demi, et voire les deux, et un rein avec. Et au final, pour une sécurité qui est moyenne. Mais maintenant, en fait, on a tellement d'acteurs de la cybersécurité disponibles à droite à gauche, c'est assez facile de trouver quelque chose, une prestation qui est honnête. C'est comme quand le gouvernement demandait... C'est vieux maintenant, mais quand ils ont fait un appel d'offres pour créer le site France.fr, c'était un site tout con, hein, assez basique dans l'ensemble, et il avait coûté une fortune, alors qu'il n'y avait rien d'extraordinaire. Mais parce que voilà, quand ça marche effectivement par contrat, par pote et tout, etc., bah, les prix sont pas réels. Mais quand tu fais de la vraie cybersécurité avec des vrais gens qui payent le bon prix, c'est pas si cher que ça. Hein. Honnêtement, c'est pas si cher que ça. Et après, bah, à toi de voir que quel est ton... Évidemment, faut regarder ton risque. Une entreprise qui se prend une attaque de cybersécurité, il y a plusieurs risques. Un, l'entreprise peut tomber d'elle-même parce que voilà, l'attaquant a fait des dégâts sur place au moment où il fait l'attaque. Quel est ton coût de... toute mon infra se fait wiper. Voilà, ça, c'est un coût. Bon, effectivement, c'est rare, mais ça peut arriver. Après, tu as un autre coût qui est le coût de la réputation. Une fois qu'on sait que tu t'es fait attaquer, les gens vont te voir différemment. Surtout si tu gères mal la crise, ça c'est un coût aussi. C'est un coût de non-achat ou de manque de respect de la marque. Et puis il y a un dernier coût qui est assez récent, c'est avec le RGPD. C'est-à-dire que maintenant, quand tu fais fuiter les données,
Est-ce que tu peux m'aider quand même un minimum?
À quoi faire?
À faire la quête, pendant que tu me parles.
Ah d'accord. Et du coup, oui, t'as un coût maintenant d'une amende, en fait, hein, liée à la RGPD quand tu fais... tu as mal sécurisé ton infrastructure. Donc, quand tu mets tous ces coûts-là bout à bout, quand même, ça coûte cher. Ça coûte très cher, la faille. Pas la sécurisation, la faille. Et donc la sécurisation coûte pas si cher que ça, pour peu que voilà, tu te fasses pas entuber. Alors après, je presse pas pour ma paroisse, hein, c'est dommage, mais moi aussi je veux bien me faire payer des milliards pour sécuriser une faille à la con où t'as trois paramètres dans un fichier ini à changer, hein. J'adorerais faire ça. Mais dans la vraie vie, quand on est honnête, eh ben on fait pas ça. Et ça coûte pas si cher que ça, la sécurité.
Voilà. Planche de supplice sur Pombo à l'avenir.
C'est-à-dire faire, mettre en place des policies Active Directory parce que l'entreprise n'en a jamais eu et que voilà, faut mettre un minimum. Quelqu'un qui est spécialiste de l'Active Directory sait faire ça par cœur, ça lui prend 5 minutes. Bon, allez, tu lui mets une demi-journée le temps de comprendre les détails de l'entreprise et voilà, qu'est-ce qu'elle a de spécifique qu'il faut amender. Mais globalement, ça ne coûte pas cher. Voilà, ça coûte pas cher. Je ne pense pas que ça coûte plus cher. Une grosse partie de la sécurité se fait par la prévention, la formation et du bon sens. La formation peut peut-être coûter un peu plus cher parce qu'effectivement, si tu veux former tous tes collaborateurs, bah, ça coûte de l'argent, là, effectivement. Mais comme toute formation, effectivement, toutes les formations sont plutôt mal vues. Enfin, c'est une partie des budgets que les entreprises n'arrêtent pas de restreindre. Et ça pose problème. Pas que dans la cybersécurité, là, pour le coup. Le bon sens, ça marche pas, faut vraiment du training. Ah oui, ça c'est clairement... Là, je suis tout à fait d'accord avec Chris. La cybersécurité, c'est un métier. Mais je peux pas deviner. C'est... En fait, c'est quoi la cybersécurité? C'est prévenir chaque faille ou se préparer au pire risque?
Un peu les deux.
Les deux, ouais, tout à fait. En fait, ça dépend... en fait... ça dépend quel est le moins pire risque, en fait, c'est ça. C'est pas le pire risque que tu dois prévenir, c'est le moins pire que tu acceptes. Enfin, que tu n'acceptes pas, plutôt. Donc, tu dois d'abord savoir tous les risques. En fait, c'est ça le problème, c'est que dans la cybersécurité, la première chose à faire, c'est d'identifier tes risques. La plupart des boîtes savent même pas quels sont leurs risques. Moi, une partie des audits que je fais, le tout début, la première phase de l'audit, c'est d'évaluer les risques déjà, de faire le tour, l'inventaire de tous les risques. Une fois que t'as fait l'inventaire de tous les risques, eh ben, tu vois, effectivement, en fonction de ton entreprise à toi, de la manière dont t'apprends les choses, etc., qu'est-ce que tu acceptes, qu'est-ce que tu acceptes pas, et ok, là, derrière, après, on sécurise que ce que t'as envie de sécuriser. Mais, déjà, il faut que tu saches tous les risques. Il faut avoir clairement décidé que, bon, bah, ce risque-là, je le prends, celui-là, je le prends pas, enfin, voilà, il n'y a pas de... J'y suis pas, là, la vieille planche de supplice. Non. Ah non, c'est là-bas. À part un ransomware, il n'y a pas grand-chose qui craint dans les PME. Oh là, détrompe-toi. Le problème des PME, c'est qu'elles n'ont pas beaucoup, elles ont pas les épaules très larges. Donc à partir du moment où tu interromps leur service, déjà, si c'est du e-commerce, à partir du moment où tu perturbes leur base de données, eh ben, elles vont avoir beaucoup de mal à s'en remettre. Rien que perdre leur base commerce, enfin leur base client. C'est juste ça. Se effacer la base client d'une entreprise, d'une petite entreprise, pour reconstituer sa base client, ça va lui coûter une fortune. Voire, il y en a qu'elle retrouvera jamais. Donc ça, c'est vraiment une perte sèche, là, sur le coup. Il n'y a pas que du ransomware, il y a ça. Et puis alors après, effectivement, le vol, la concurrence, mais ça, c'est plus indirect. Mais maintenant, avec les RGPD, quand tu te fais voler des données... Tes clients peuvent se retourner contre toi en disant bah, t'as mal sécurisé et donc t'as une amende. Donc l'amende, c'est pour ça qu'ils ont créé cette amende justement, pour que les entreprises prennent en compte le fait que, parce qu'avant quand ils faisaient voler des données, ils s'en foutaient un peu. Bah maintenant ils doivent s'en occuper parce qu'il y a une amende derrière. L'envoi d'un fichier contenant des informations sensibles pour l'entreprise par erreur à l'extérieur peut avoir des dommages aussi importants qu'un ransomware, clairement. Clairement, tout à fait. Et en fait, oui. Il faut savoir, je sais plus où sont les stats, enfin, elles doivent plus être à jour maintenant, mais il y avait un truc du genre trois quarts des PME, TPE, quoi, on va dire, les trois quarts ayant subi une attaque ne s'en relevaient pas. Voilà. Alors, c'est les chiffres qui. Ça doit dater un peu maintenant, ça doit faire 10 ans, je pense. C'est les chiffres que j'avais quand j'ai commencé mon étude de marché en tant que consultant. Donc, ouais, c'était un truc comme ça, quoi. En gros. Autant une grosse boîte, bon, s'enlève et puis, ok, elle va payer, quoi, s'il faut vraiment qu'elle paye. Autant les TPE, c'est souvent, je mets la clé sous la porte, quoi. L'élévation à l'ouest. C'est où ça, c'est par là. Est-ce qu'un PCiste en cyber empêcherait vraiment ce genre d'attaque?
Bah oui.
Ah, le coup d'envoyer des fichiers avec des informations sensibles, ça peut faire partie des programmes de formation. En fait, je vais te répondre oui, pour une raison toute simple, c'est que vraiment, je rejoins ce que je disais tout à l'heure, la première chose que fait un spécialiste, la première étape, c'est d'identifier tous les risques. Et quand tu identifies tous les risques, bah, tu identifies aussi les risques internes. Le risque que ton employé fasse une connerie, le risque que ton employé soit fâché à cause d'une histoire autre de RH ou que sais-je, et donc veuille se venger. Tu peux l'employé est un vecteur de risque quand tu fais une étude comme ça. Et donc l'analyse d'un consultant cybersécurité doit incorporer ces risques internes. Et après, à charge pour les RH, le patron, enfin qui tu veux, d'évaluer si c'est un risque qu'il faut poursuivre, tu vois, auquel il faut mettre une protection en face. Il y en a pas forcément, effectivement. Tu peux évaluer que le risque est trop faible et que ça t'intéresse pas. Mais tu dois lister ces risques. Et ça, tous les spécialistes de cybersécurité le font. Hein. J'espère. Moi, je le fais en tout cas. Oui, où la tombe du mineur. Je vois pas la tombe du mineur. Attends, je suis à l'ouest.
On voit. Et que tu glandes ?
Non, je glande pas. Je suis à l'ouest et je cherche le tombe du mineur.
Oui, c'est pas au bon endroit.
C'est quoi ça ? Viens. Hop. Ouais, je glande pas. Il y a toujours une faille, même avec un expert en cyber. Oui, alors... Encore une fois, l'expert en cyber ne corrige pas forcément toutes les failles. Le principal boulot de l'expert en cyber, c'est de te lister les failles. Et c'est là où, par contre, il faut qu'il soit hyper exhaustif. Il faut qu'il arrive à trouver le maximum de failles. Après, la correction des failles, c'est un autre sujet. C'est pas... L'important, c'est de les connaître. Si tu sais pas qu'est-ce que t'as comme faille, tu peux pas t'en protéger, tout simplement. Donc vraiment, le vrai apport d'un expert en cybersécurité, vraiment l'apport principal, c'est sa capacité à lister les failles d'une entreprise. C'était en haut, en fait. Et du coup, oui, il peut toujours rester une faille parce que, après, c'est... Quand on fait, alors là je parle des audits, si vous connaissez pas, c'est par exemple la méthode EBIO-CRM. Si vous avez jamais vu, vous pouvez jeter un coup d'œil à ce que la méthode EBIO-CRM, c'est le risk management. Donc c'est une méthode faite par l'ANSI, qui est très bien foutue d'ailleurs, qui est en accès libre, c'est gratos. C'est pas comme les normes ISO où faut payer, c'est un petit grief personnel où j'ai toujours trouvé dégueulasse qu'il faille payer pour avoir les normes ISO. Mais bon, là, mais en tout cas, la méthode EBIO-CRM, elle est gratuite, disponible sur Internet sans problème. Et elle va t'expliquer comment faire pour faire cet inventaire. Alors bon, après, tu sais faire ou pas, ça s'adresse aussi aux professionnels. Mais elle va te détailler un petit peu tous les intérêts et notamment savoir identifier les risques que tu acceptes de prendre, ceux que tu n'acceptes pas de prendre. C'est vraiment là le cœur de la méthode savoir dire bon, ce risque là je me l'accepte parce que j'ai pas les moyens financiers ou humains de le contrer, quoi. Donc je sais qu'il y a une faille, mais je sais qu'elle est là. Au moins le jour où je me fais attaquer, je sais par où. Donc c'est certaines manières de contourner le truc, quoi. Par définition, l'attaquant a toujours un coup d'avance. Il trouve justement la faille à laquelle le spécialiste en protection n'a pas pensé. Oui, alors après il y a aussi le côté savoir faire la différence entre ce qui est une attaque qui vous vise personnellement, les fameuses APT, Advanced Persistent Threat. Ça, c'est vraiment une attaque qui est pour toi, qui veut toi, qui cherche à te voler des secrets à toi, d'une attaque random de Joe le hacker qui a trouvé un nouvel outil et qui le teste sur toutes les IP qu'il trouve, quoi. C'est pas la même, quoi. Et donc du coup, c'est pas la même protection non plus, et ça fait qu'il y a des risques que tu vas protéger différemment. Tu Tu penses quoi des normes dans la cybersécurité comme l'ISO 27001? Ah bah alors, d'une manière générale, j'en pense qu'elle n'est pas gratuite et ça c'est de la merde. Voilà. Mais ça dit rien du contenu. Après, moi j'aime bien les normes ISO, hein. J'ai été qualiticien un temps. Et c'est un truc qui, moi, les procédures carrées, les normes, etc., c'est un truc que j'ai toujours été confortable avec. Elle n'est pas plus mauvaise qu'une autre. Bon, et BioCRM est plus spécifique, pragmatique sur ce qui m'intéresse. Que 27000 est quand même extrêmement générique. Hein. C'est pas les mêmes. Et puis elle est ancienne. La 27001, c'est 2001, je crois, hein, qu'elle est sortie. Donc bon, ça date, quoi. La méthode des BioCRM est beaucoup plus moderne et récente et plus pragmatique, quoi, on va dire. C'est la sécu. Maintenant, moi, les méthodes ISO, moi, ce que j'aime bien, c'est tout l'aspect documentation, suivi de la documentation, etc., qui manque cruellement au monde de l'informatique. Et donc, c'est toujours une bonne chose de réintroduire de la doc et, et du suivi de doc dans un process informatique. Ça, c'est toujours bon à prendre. Si tu sais d'où ça vient, c'est plus facile de stopper. Oui, même si t'as pas de protection parfaite, au moins, tu gères un peu mieux, puis tu exposes moins. Je veux dire, si tu sais que tu vas pas protéger, eh ben, tu mets pas... je sais pas, on te dit, cette base de données-là, elle est sensible aux attaques, et toi, par ton infrastructure, tu peux pas la mettre ailleurs. Donc, elle est forcément à découvert. Eh ben, tu t'arranges pour que les données qui soient dedans, t'en mets le moins possible, voilà. C'est une méthode. Même si c'est pas une vraie protection, tu trouves des compromis, t'essaies de faire des choses, quoi. Où tu mets, tu mets un monitoring dessus qui fait que le jour exact où tu te fais attaquer, au moins tu l'as regardé, t'es au courant, quoi. Bon, t'as rien pu faire pour l'empêcher, mais au moins tu l'as vu. Voilà. Ça permet de réagir plus vite en gestion de crise. On va où là? On va vendre, c'est ça?
Oui, 18h.
Ok. Ah oui, d'accord, j'ai pas vu. Intervient à ce moment-là le facteur temps. Combien de temps tu vas mettre pour localiser et stopper l'attaque? Qu'est-ce qu'il peut faire comme dommage, exactement? C'est traduit en anglais, BioCRM? Très certainement. Je crois que le site est multilingue, donc oui, il est très probablement traduit en anglais. J'aime bien comme méthode. Honnêtement, en France, on a cette chance d'avoir un organisme d'État qui parle de cybersécurité et qui est plutôt pas mal, hein, plutôt respecté et respectable dans ce qui sort comme préconisation, comme méthodologie, comme outillage. Il est plutôt bien, hein. Faut pas jeter la pierre. T'as pas ça dans tous les pays, quoi. Après, digne de confiance, oui, après c'est une méthodologie, donc la méthodologie est bonne, donc tout va bien, quoi. Du coup, c'est quoi une bonne protection? Bah, d'un point de vue de la définition même, tiens, il y a du loot devant. D'un point de vue de la définition même, une bonne protection, c'est quelque chose qui te protège à hauteur du risque que tu es prêt à assumer. Voilà. Donc si tu
non,
as...
Non.
De quoi?
Soit tu me gères les voiles, soit tu...
J'enlève les voiles.
Mais tu te barres pas...
J'enlève les voiles, tout de suite. Ça, on va le finir au grappin, ça sera plus simple. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, soit tu considères que le risque ne t'impacte pas, et ne pose pas de problème, donc bah du coup t'es protégé comme il faut. Soit tu considères que bah le risque ne vaut pas le coup et donc bah, il faut que tu protèges à hauteur de ce que t'es prêt à accepter. Ton fichier client, tu n'acceptes pas qu'il soit disponible sur Internet, et bah tu dois mettre tout en œuvre pour qu'il ne soit pas disponible sur Internet. Si par contre ton fichier client, t'en as rien à foutre qu'il soit sur Internet, bah tu mets la protection à hauteur. Voilà. Des sauvegardes, c'est ça, oui. Après, ça peut être juste, je sais pas protéger, donc je protège rien. Par contre, je mets des sauvegardes pour pas qu'on m'efface. C'est une chose, voilà, c'est une chose. Après, la RGPD t'impose quand même un certain nombre de choses maintenant. Donc, pas non plus t'en foutre complètement, quoi. D'ailleurs, c'était le but, hein. C'est pour ça qu'elle est sortie, justement. Donc, il faut pas parler en termes de pourcentage. T'es jamais à 100% protégé. Ça existe pas, ça. Par contre, tu peux parler en termes de le risque de, par exemple, avoir ma base client comptable d'effacer. Ce risque-là est mitigé. On parle de mitigation de risque en français, oui, mitigé. Mitigation, non? Comment on dit en français?
Alors, soit tu me laisses décharger, soit tu vas vendre, mais là, ce que tu fais, c'est un peu, ça sert à rien.
Je cherche un mot. Mitigation. Non, ça n'existe pas en français, mitigation.
Non.
Comment on dit en français ? Je ne sais plus. Si non, quelqu'un.
Va vendre. Va vendre.
Ah, mais je cherche. Je suis pas.
Oui, mais tu peux faire les deux en même temps.
Atténuer, remédier. Atténuer, peut-être, oui. C'est pas quand même. Normalement, c'est plus que atténuer, c'est qu'on l'a interrompu quand même. Ouais, atténuer. Remédiation. Remédiation, peut-être, ça me paraît pas très très français. Mais un peu plus que mitigation, donc.
Et la remédiation, c'est français.
On va dire ça alors. Remédiation, ça paraît pas mal. Et donc, voilà, on parle pas de sécurisation et de pas sécurisation en vrai. On parle de risque. Et de risque mitigé. Enfin, risque remédié. Voilà. C'est pour ça qu'on parle de gestion de risque, pas de gestion de la sécurité. Et donc, sur ce, effectivement, il est 18h passé. Donc, je vais aller. Si vous avez une dernière petite question pour la route, et puis, on va se dire au revoir, tout simplement. Le risque, c'est pas seulement la destruction des données, mais aussi la fuite. Effectivement, le facteur humain est une faille également. Il y a justement, alors ça peut être une lecture intéressante d'ailleurs, hein, si vous, même si vous n'êtes pas vous-même professionnel de la sécurité, allez voir cette fameuse méthode EbioCRM. Elle présente un certain nombre de fondamentaux sur quel risque quelles sont la liste des risques en fait, hein, la liste aussi des différents acteurs, des différents profils d'attaquants, des choses comme ça. C'est intéressant même si vous comptez pas appliquer la méthode. Pour avoir un peu de lecture, de structuration en fait du monde de la sécurité, c'est assez intéressant à lire. Moi j'aime beaucoup la méthode EbioCRM, je vous le dis, je ne le cache pas, mais c'est globalement ce que je fais en entreprise. Hein, globalement, c'est moins, enfin je fais plus ça que par exemple du pentest ou des choses comme ça. Ça vient après, si vous voulez, le pentest, mais le cœur du métier, c'est quand même ça. Et puis les formations. Quoi. Moi c'est surtout ça que je fais. De l'analyse de risque et de la formation. Le pentest vient, mais bien secondaire, quoi. Bien après. Expert cyber-mitigation. C'est ça. C'est un cyber-mitigant.
C'est vrai que c'est moins sexy que le pentest ou le red team.
Ah, clairement, oui. C'est pas le... De toute façon, moi, je m'en suis jamais caché, mais je vous le dis aussi dans mes live hacking, hein, je suis pas l'expert technique de vos rêves, hein, je suis pas le vilain hacker qui va hacker le Pentagone. Hein. Moi, je suis le gars qui audite votre infra et qui vous dit bah là c'est de la merde, et là aussi, et là, et là, et là. Et puis bah qui vous dit comment corriger quand même. Je suis pas méchant. Mais je suis pas un expert technique, clairement. Ou c'est jamais moi qui vous trouvera des 0D, par exemple. C'est clairement pas mon moyen. Allez, sur ce, donc, il est 18h passé. Moi, je vais vous dire à la prochaine. Alors, du coup, semaine prochaine, on fera un CTF, parce que ça fait longtemps qu'on en a pas fait. Je sais pas du tout encore lequel. Encore une fois, vous pouvez m'envoyer des suggestions. Même si je commence à avoir déjà une grosse liste de suggestions, il va falloir que je la dépile un peu de temps en temps, quand même. Mais ça ne vous empêche pas de suggérer de nouvelles machines. Donc aussi bien sur Volnub que sur TriAcme que sur Xbox. Merci pour le follow MinixWay. Et donc dans 15 jours, ce sera probablement encore un Pirate Talk. On verra, mais il y a des chances. Puisque voilà, une semaine sur deux, je fais du technique. Et une semaine sur deux, on fait du blabla. Parce que vous savez que j'adore blablater. Et merci aussi à tous ceux qui ont vu la vidéo sur Combini et qui m'ont félicité pour ça. C'était fun, c'était rigolo à faire. Et c'est marrant que la vidéo fasse que 5 minutes alors que j'ai causé 1h30. Mais c'est marrant. Encore vaut mieux. Vous savez, comme je m'étale en parole, et finalement c'est aussi bien que ça dure que 3. Je crois qu'il fait même moins que ça, il fait 3 minutes. Allez, à plus, merci à tous d'être passés dans le live, merci à tous d'être passés dans le Discord. Force of Lubik Bolga, ouais, exactement, cette vieille ref. J'espère que tout le monde a la ref. Qu'est-ce que c'est que Glooby Bulga? Est-ce que vous avez la ref dans le vocal? Oui, sûrement.
Ça me rappelle un gros bonhomme orange avec des pois verts.
Exactement. Et tu es majeur et vacciné, c'est pour ça que tu as la ref.
C'est au nombre ultime de l'univers, donc je pense à tout normalement.
Ah, normalement, moi c'est... Ah oui, tiens, c'est cette année. Ah merde. C'est cette année que j'atteins ce nombre magique. Bon, allez. Sur ce, à plus tout le monde. À plus le live. Et à la prochaine. Salut.